Vous êtes sur RTL.
RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
Le talent, le voici. Agnès Bonfillon, bonjour à vous.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
C'est toute l'actualité du dimanche. Nous sommes préparés à tout. Jean-Michel Blanquer se veut rassurant à deux jours maintenant de la rentrée.
Le ministre de l'Éducation nationale donne ce matin une longue interview au journal du dimanche. Nous allons y revenir dans un instant. Sur le terrain, les professeurs, eux, règlent les derniers détails pour accueillir les enfants à partir de mardi. Pour RTL, Denis Grandjeau, vous vous êtes rendu dans une école primaire de Saint-Morillon, en Gironde.
Oui, Karine Vallès profite du week-end pour checker une dernière fois son école.
S'assurer que le ménage a bien été fait, qu'il y a assez de bureaux, de chaises dans les classes. Enfin voilà, il y a beaucoup de travail dans tous les domaines. La reprise ne se fait pas pour un directeur d'école deux jours avant la rentrée. Ça fait déjà 10 jours que j'y suis, quoi.
10 jours aussi pour se préparer à la nouveauté de cette rentrée 2020.
Le port du masque toute la journée... ça va être quelque chose de nouveau, certainement d'un peu lourd, mais bon, auquel maintenant, je crois, chaque citoyen va devoir s'habituer, quoi.
Mais une chose est sûre, pas question pour elle de déroger à sa tradition de placer une photo très particulière derrière son bureau.
Ah, une photo, oui, j'ai une photo. Mais une photo d'une classe qui vient de très très loin. C'est une photo d'une classe du sud de l'Inde, du Kerala, voilà. Où je suis allée, pas pour enseigner, mais c'est vrai qu'elle est avec moi.
Mardi, Karine Vallès et les 7 instituteurs de Saint-Morillon attendront les enfants dans la cour de l'école primaire. Et bonne nouvelle, les effectifs sont à la hausse.
Il y en avait 200 il y a 3 jours, il y en a 201 maintenant. Une nouvelle inscription.
Le reportage de Denis Grandjeau pour RTL. On le disait, Jean-Michel Blanquer s'exprime dans le JDD. Bonjour Armelle Lévy.
Bonjour.
Le ministre de l'Éducation affiche une certaine sérénité.
Et oui, nous sommes préparés à tout, explique le ministre qui promet une rentrée scolaire normale malgré l'épidémie. Tout est prévu si un enfant ou un adulte était testé positif. Les cas contacts sont testés sous 48 heures et en fonction des résultats, une classe ou toute l'école pourrait fermer. Mais on n'en est pas là. À la rentrée, la cantine, l'internat et les activités sportives fonctionneront normalement dans le respect des règles sanitaires. Pour mesurer les impacts du confinement sur le niveau des élèves, les évaluations en CP, CE1 et 6e auront bien lieu. Et ce mardi, les parents pourront accompagner leur enfant à la maternelle pour leur premier jour d'école. Les réunions parents-prof seront aussi maintenues. Le ministre de l'Éducation, qui tient à souligner à quel point les parents aiment leurs professeurs, toutes les enquêtes le montrent, dit Jean-Michel Blanquer, 81% des parents ont de la sympathie pour les enseignants.
Et justement, autre annonce Armelle, un Grenelle des professeurs aura lieu avant la fin de l'année.
Oui, et ce Grenelle de l'éducation devrait même débuter cette semaine pour revaloriser les carrières et la rémunération des enseignants. Sauf que le ministre ne donne pas l'enveloppe budgétaire, 500 millions, 300 millions, les enseignants ont vu l'enveloppe se réduire au fil des mois, donc ils sont dans l'attente. Revalorisation des débuts de carrière, prime d'équipement, missions supplémentaires... Tout est sur la table, mais les syndicats, eux, avertissent déjà. Ils ne veulent pas entendre parler de rémunération au mérite.
Merci beaucoup pour ces précisions. Armelle Lévy, du service économique et social de RTL.
Un chiffre à présent, chiffre vertigineux concernant le tourisme. Cet été à Paris, il y a eu 95% de visiteurs étrangers en moins que d'habitude.
Oui, 95%, une chute catastrophique qui, heureusement, ne concerne pas le reste de la France. La montagne a même réussi à tirer son épingle du jeu. Charles Ange Ginesi fait un premier bilan. Il est président de l'Association nationale des maires de stations de montagne.
Sur les activités de loisirs, les chiffres sont très bons. On a même des chiffres qui arrivent jusqu'à 40% d'augmentation. Sur les accrobranches, sur les activités de plein air, le secteur de la restauration, de l'hôtellerie, du logement, là aussi, est en augmentation, mais de façon plus mesurée. Mais je peux vous confirmer qu'il y a une nette progression par rapport aux années précédentes. Et je crois que les professionnels de la montagne peuvent être satisfaits. La montagne, c'est l'espace. On se retrouve en famille, on respire de l'air pur. Donc c'est plutôt une bonne chose que cette redécouverte de la montagne dans un moment malgré tout difficile.
Des propos recueillis par Serge Pueyot pour RTL. Ce matin, toujours plusieurs centaines de fêtards dans la Creuse. Ils participent à une rave party, pourtant illégale, à Feugnies très exactement, notamment à cause du Covid. 200 gendarmes sont sur place, appuyés par un hélicoptère. Pas d'évacuation, mais des verbalisations et des interpellations.
Et toujours beaucoup de questions après le viol et le meurtre d'une adolescente. L'auteur présumé est un multi-récidiviste. On va vous expliquer dans une poignée de secondes. À tout de suite.
RTL Matin. RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
Et à mes côtés, Agnès Bonfillon pour vous informer la suite du journal à 9h06 avec une question. Le meurtre d'une adolescente à Nantes il y a 10 jours aurait-il pu être évité?
Un homme de 45 ans vient d'avouer les faits. Il s'agit d'un multirécidiviste. Déjà condamné pour plusieurs viols en 2005, il était sorti de prison il y a 4 ans et semblait, selon les magistrats, s'être correctement réinséré. Aucun signalement jusqu'à ce jour fatidique, Mathieu Lopineau.
Cet homme au lourd passé judiciaire a avoué froidement le viol, l'homicide par strangulation avec un cap trouvé sur les lieux et l'incendie de la maison pour effacer les traces. Alors lors de ses aveux, il a émis des regrets, expliqué une pulsion, condamné pour 17 viols, mais c'est la première fois qu'il est soupçonné d'homicide. Libéré en 2016 après 13 ans de prison, depuis cet agent de maîtrise de 45 ans qui vivait et travaillait dans la région nantaise, était soumis à un contrôle socio-judiciaire qu'il suivait à la lettre, d'après le procureur adjoint Yvon Olivier.
Il voyait une fois tous les deux mois un psychothérapeute. Il avait même trouvé une campagne. On a pu penser à une forme de stabilisation. Et pour autant, ça n'a pas suffi à prévenir la récidive. Il n'y avait pas le moindre élément qui puisse penser à une forme de fragilisation qui aurait pu le conduire à passer à l'acte.
Il a agi en utilisant le même mode opératoire qu'avec ses 17 victimes de la région de Poitiers, c'est-à-dire en repérant une maison, ce qui prouverait la préméditation, et en y faisant entrer l'adolescente choisie au hasard, en lui demandant de l'aide pour monter un carton. L'auteur a été mis en examen pour homicide volontaire, viol en récidive et destruction volontaire par incendie. Il était placé en détention hier soir. Les obsèques de la jeune lycéenne de 15 ans auront lieu mardi en l'église Saint-Félix de Nantes.
Mathieu Lopineau pour RTL. Condamnation quasi unanime de la classe politique après un roman fiction publié par Valeurs Actuelles. Le journal met en scène cette semaine la députée de la France Insoumise, Danielle Obono, en esclave, chaîne au cou. Malgré les excuses de l'hebdomadaire, cette dernière réfléchit à porter plainte. Le racisme, il en est aussi beaucoup question aux États-Unis, encore et toujours. Il y a une semaine, jour pour jour, un Afro-Américain de 29 ans a été atteint de 7 balles dans le dos par un policier. Donald Trump a annoncé qu'il se rendrait après-demain dans le Wisconsin, à Kenosha, là où a eu lieu le drame. Le président américain rencontrera des responsables de la police locale. Pas la famille de la victime, désormais hémiplégique. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas prévu. L'appel à l'aide du Louise Michel au large de la Sicile, enfin entendu. 49 personnes considérées comme très fragiles, notamment des femmes et des enfants, ont été évacuées par d'autres bateaux humanitaires. Le navire affrété par l'artiste Banksy a sauvé ces derniers jours près de 220 personnes en mer.
RTL Tour de France 2020.
Vélo et patinoire, hein. Chute en série hier lors de la première étape du Tour à Nice.
Ah oui, la météo n'a pas facilité les choses pour les coureurs. Même Thibaut Pinot a glissé à moins de 3 km de l'arrivée. Rien de grave physiquement, mais il le reconnaît moralement. Il faut le gérer.
C'était difficile. Ça a été une des pires journées de ma carrière, je pense. Je pense que tout le monde était pareil, tout le monde a eu peur. On roulait vraiment sur de la route, sur du verglas. Donc c'est vrai que devant la télé, je pense qu'on peut pas, on peut pas comprendre. Mais sur le vélo, c'était à vivre, c'était vraiment stressant. Et pour moi, c'était une des journées les plus stressantes de ma carrière.
Thibaut Pinot avec Nicolas Georgerot, c'est Alexander Christophe, le Norvégien, qui enfile le premier maillot jaune de l'édition 2020. Aujourd'hui, deuxième étape dans l'arrière-pays niçois avec 186 km de parcours et deux premiers cols au programme. Nous vous faisons vivre évidemment régulièrement en direct le Tour de France sur RTL à partir de 13h20 jusqu'à l'arrivée.
Tour de France qui restera gravé dans les mémoires.
Oui, au-delà des conditions sanitaires, la première étape hier sur la promenade des Anglais, là où s'est déroulé l'attentat du 14 juillet 2016 qui a fait 86 morts, eh bien cela a provoqué beaucoup d'émotions, Raphaël Vontard.
L'image est saisissante. À trois reprises hier et tout à l'heure encore, les coureurs du Tour de France passeront devant le mémorial des victimes de l'attentat de Nice. C'était il y a 4 ans, le 14 juillet 2016. Pour les Niçois, la présence de la grande boucle est un symbole. Le sport, la vie reprend le dessus. Nelly est éducatrice pour jeunes enfants.
C'est le sport et la vie qui l'emporte sur les, on va dire, les événements sombres. C'est une belle revanche, la vie qui part sur les chapeaux de roue.
Devant le mémorial, Hervé s'incline, voir le Tour de France sur la promenade des Anglais lui procure beaucoup d'émotions.
C'est un symbole important, oui. Tout le monde se souvient du 14 juillet 2016. On dépasse les haines et les souffrances. Voilà.
Très touché par ces attentats perpétrés en plein Tour de France il y a 4 ans, Christian Prudhomme, le directeur de la course et les organisateurs, voulaient un passage sur cette artère meurtrie de Nice.
Nous pensons, je pense évidemment aux gens qui sont tombés. La promenade des Anglais, c'est évidemment un lieu de mémoire. Ça ne peut pas être autrement depuis 2016, le drame le plus horrible, le plus effrayant qui soit.
La promenade des Anglais, en partie réservée au Tour de France depuis quelques jours, retrouvera son calme demain, après le départ de la Grande Boucle vers d'autres cieux.
Le reportage de Raphaël Vantard à Nice pour RTL. En foot, suite de la deuxième journée de Ligue 1 et Nice décidément à l'honneur puisque les Aiglons ont été très efficaces à Strasbourg hier 2-0. Ils sont désormais en première place du classement. Rennes bat Montpellier 2-1. Au menu cet après-midi, Metz-Monaco, Nantes-Nîmes ou encore Saint-Étienne-Lorient. Et puis ce soir, Brest-Marseille, ce sera à 21h.
Les rendez-vous du dimanche à ne pas manquer. On refait le sport, c'est 19h30, le coup d'envoi, et puis dans la foulée RTL Foot pour ce Brest-Marseille notamment, le tout entre 20h et 23h. Merci beaucoup Agnès, l'actualité, vous allez cliquer rtl.fr.